Vous êtes avec SBS French. Et les principales actualités de ce mardi 18 mai. Pas de répit à Gaza où les affrontements entre Israël et les militants du Hamas ont déjà fait plusieurs centaines de morts. En Australie, la campagne de vaccination tourne au fiasco. Moins de 4% des personnes résidant dans des établissements pour handicapés ont été vaccinées. Ils sont pourtant éligibles depuis 3 mois. Et d'ici quelques jours, les Français d'Australie vont être appelés aux urnes dans le cadre des élections consulaires. On vous expliquera tout en fin de journal. Pas de répit dans le conflit qui oppose depuis maintenant près de 2 semaines Israël et la Palestine. D'après les Nations Unies, les bombardements israéliens dans la bande de Gaza ont provoqué le déplacement de plus de 38 000 Palestiniens et 2500 d'entre eux sont même devenus sans domicile fixe, d'après le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Nos confrères de SBS Arabic ont pu s'entretenir avec Fadi Houssam, un journaliste gazaoui dont l'immeuble a été détruit par l'armée israélienne. Il décrit sur place une scène de cauchemar.
Horrific moments and no one understands what was going on. Children crying and women crying, and when the bombing stopped, there was a state of confusion among the people in the house, as we were about 40 people in the building. Some suggested to go out and others urged to stay for safety.
Et sur ce conflit, le président américain Joe Biden a pour sa part demandé au premier ministre israélien de mettre en place un cessez-le-feu, alors qu'au moins 212 Palestiniens sont morts, parmi lesquels une soixantaine d'enfants, tandis qu'Israël recense de son côté 10 victimes, parmi lesquelles 2 enfants. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui pour faire le point sur la situation sur place. Les affrontements actuels sont plus violents encore que la dernière guerre qui a frappé Gaza, ça remonte à 2014. C'est ce qu'ont raconté les habitants de cette enclave palestinienne à Sami Bou Khalifa, le correspondant de Radio France Internationale dans la région.
Alia Abou Amr a vécu toute sa vie à Gaza, mais pour elle, ces dernières nuits de bombardements ont été les plus destructrices jamais connues.
En une semaine, les raids israéliens ont fait plus de dégâts que durant les 50 jours de la guerre de 2014. On a pu avoir jusqu'à 30 frappes par minute. Et je ne parle que des bombardements aériens. Il y a aussi des tirs d'artillerie.
Comme les 2 millions de Gazaouis qui vivent sous blocus israélien depuis 15 ans, cette mère de famille est terrée chez elle avec ses proches. À Gaza, les civils n'ont nulle part où s'abriter.
Les enfants sont terrifiés. Que Dieu nous vienne en aide, ils nous ont brisés. Mais on essaye de faire bonne figure devant les petits pour ne pas les effrayer davantage.
Selon les habitants de Gaza, lors de la guerre de 2014, l'armée israélienne n'a ciblé les tours de la ville que durant les derniers jours du conflit. Cette fois-ci, dès le début, l'État hébreu a pulvérisé plusieurs de ses grands immeubles d'habitation. Selon l'armée, le Hamas dissimulait dans ses bâtiments ses activités terroristes. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI.
Le dispositif COVAX, qui vise à fournir des doses de vaccins aux pays les plus pauvres, va être renforcé dans les jours à venir. D'après l'UNICEF, les pays de l'Union européenne, mais aussi ceux du G7, vont donner 150 millions de doses de vaccins. Par ailleurs, les États-Unis ont annoncé pour leur part qu'ils donneraient 20 millions de doses supplémentaires au cours des 6 prochaines semaines, alors que désormais plus de 60% des adultes américains sont vaccinés. Pour le président américain Joe Biden, la sécurité sanitaire des États-Unis ne peut être assurée que si la pandémie est sous contrôle au niveau mondial. Écoutez-le.
Today, we're taking an additional step.
Aujourd'hui, nous prenons une mesure supplémentaire pour aider le monde. Nous savons que l'Amérique ne sera pas complètement protégée tant que la pandémie ne sera pas globalement sous contrôle. À la fin avril, nous avons annoncé que nous allions fournir 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca à l'étranger. Et aujourd'hui, j'annonce que nous allons aussi partager les vaccins autorisés aux États-Unis et que des doses de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson seront aussi disponibles à travers le monde. D'ici la fin de juin, quand nous aurons reçu assez de ces vaccins pour protéger tout le monde aux États-Unis, nous partagerons au moins 20 millions de ces doses avec d'autres pays. Cela signifie qu'au cours des 6 prochaines semaines, les les États-Unis vont envoyer à l'étranger 80 millions de doses de vaccins. Cela représente 30% des vaccins produits par les États-Unis d'ici la fin juin. C'est plus qu'aucun pays n'a encore offert à ce jour, 5 fois plus que n'importe quel autre pays.
L'Inde, qui bataille déjà avec une vague épidémique très virulente, est aussi depuis 2 jours en proie à un très violent cyclone. Des vents de plus de 180 km/h balayent en ce moment même l'état du Gujarat, à l'ouest du pays, et on recense déjà au moins 16 morts à travers toute l'Inde. En outre, ces conditions météo très dangereuses perturbent la campagne de vaccination en cours. On fait le point avec le correspondant de RFI à New Delhi, Sébastien Farsi.
La ville de Bombay a sombré dans une nuit artificielle ce lundi, alors que ses côtes ont été fouettées par d'énormes vagues. Les pluies torrentielles, accompagnées de vents cycloniques d'environ 160 km/h, ont inondé les lignes de train et forcé l'aéroport international à fermer. L'un des énormes centres de vaccination de la ville a aussi été évacué avant d'être inondé à son tour. Certaines de ses structures temporaires en bambou se sont finalement écroulées. Dans toute cette région, des arbres se sont effondrés sur les voitures et habitations et une dizaine de personnes sont décédées. Mais tout cela n'est qu'un avant-goût de ce qu'attend la région du Gujarat plus au nord. C'est là que ce cyclone, considéré comme extrêmement sévère, vient d'entrer dans les terres avec des vents de plus de 175 km/h. Les autorités ont déjà évacué 200 000 personnes et se préparent à subir la pire tempête tropicale de cette région depuis au moins 20 ans. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Une journée record à Ceuta, l'enclave espagnole qui se trouve sur la côte marocaine. Plus de 5000 migrants y sont arrivés hier en une seule journée, parmi lesquels plus d'un millier de mineurs. Certains sont arrivés à la nage, d'autres ont marché le long du littoral en profitant de la marée basse. On écoute les explications de Sofia Katsenskova pour RFI.
Des hommes, des femmes et des enfants ont utilisé des bouées gonflables, d'autres des canots pneumatiques et certains ont même nagé jusqu'au territoire espagnol de Ceuta. Selon un porte-parole de la garde civile espagnole, la marée était si basse à certains endroits qu'on pouvait pratiquement arriver à Ceuta en marchant. Des migrants tentent régulièrement de rejoindre Ceuta en escaladant les hautes clôtures qui séparent cette enclave du Maroc. Par la nage de façon aussi massive, c'est la deuxième fois. Fin avril, une centaine de migrants avaient déjà gagné ce territoire espagnol à la nage. La majorité d'entre eux avaient ensuite été expulsés vers le Maroc. Ces arrivées s'inscrivent dans un contexte de tension diplomatique entre Madrid et Rabat. En cause, la présence en Espagne du dirigeant du Front Polisario, le mouvement indépendantiste du Sahara occidental. Brahim Ghali a été soigné dans un hôpital espagnol pour le Covid mi-avril, ce qui a fortement déplu aux autorités marocaines. Le conflit au Sahara occidental oppose depuis plus de 45 ans le Maroc au Front Polisario, soutenu par l'Algérie.
En Australie, la campagne de vaccination, ça n'est décidément pas une réussite. On apprend ainsi aujourd'hui qu'à peine 4% des personnes résidant dans des établissements pour handicapés ont été vaccinées contre le Covid-19. Et ce, alors que ces personnes sont pourtant éligibles depuis le tout début de la campagne de vaccination, qui a commencé il y a maintenant 3 mois. Un bilan médiocre critiqué par le leader de l'opposition, Anthony Albanese, qui le qualifie même de honte nationale.
The government needs to get vaccination and quarantine right. Aged care residents and people with disabilities were people who were supposed to both be in the front of the queue. They were in the first stage. We were told that 4 million Australians would be vaccinated by the end of March. This government's been complacent. The government had 2 jobs this year, to get the vaccination rollout right and to fix quarantine. And they've been complacent in both areas.
Alors, à défaut de pouvoir se prévaloir de résultats satisfaisants concernant la population handicapée, Scott Morrison s'est pour sa part félicité du rythme des vaccinations effectuées dans les maisons de retraite.
The aged care population we're over 85% now, and so that has been the population which was most at risk. We saw that, you know, when the contact tracing failed in Victoria, and we saw the second wave just wreak havoc in that state. And we saw the hundreds of lives lost there in Victoria, and they were the most elderly and the most vulnerable, and that's why we've made aged care such a high priority.
Et l'autre sujet qui fâche, c'est bien sûr la question des frontières. Elles sont fermées depuis plus de 15 mois. Les décideurs économiques, mais aussi les autorités sanitaires, appellent le gouvernement fédéral à dresser un plan pour les réouvrir. Fin de non-recevoir de la part du Premier ministre Scott Morrison, qui défend une approche qu'il qualifie de prudente vis-à-vis de la pandémie. D'après le budget présenté la semaine dernière au Parlement, le gouvernement envisage la réouverture de ces fameuses frontières pour le milieu de l'année prochaine. Une annonce qui n'a pas suscité de protestations particulièrement vives au sein de la population. Les Australiens n'ont visiblement pas de problème avec le fait qu'ils sont enfermés dans une sorte de prison dorée depuis plus d'un an. D'après un sondage réalisé par Newspoll pour le quotidien The Australian qui est paru hier, plus de 70% de la population soutient la fermeture des frontières. Ils ne sont visiblement pas plus pressés que ça, que le gouvernement les rouvre. Et le budget fédéral, je viens de vous le dire, il a été présenté la semaine dernière, mais le ministre du budget, Josh Frydenberg, est revenu dessus aujourd'hui à Sydney alors qu'il s'entretenait avec les représentants de Business New South Wales. Il a notamment souligné le fait qu'il pense pouvoir ramener le taux de chômage à son niveau d'avant la pandémie d'ici 2 ans maximum.
But the other part of the backdrop was that there are 800,000 new cases of COVID each and every day. The United States has spent $1.9 trillion but has not seen the lift in employment like we have. So the Prime Minister and I and the Finance Minister and the government more broadly made a decision that this budget had to lock in those gains. And that's what we've done. And taking this historic opportunity we have to drive unemployment even lower from 5.6 down to 5.1 where we were at the start of the pandemic last February, and then even below 5%.
Porter un couteau dans les écoles publiques de Nouvelle-Galles du Sud, ce sera interdit à partir de demain, mercredi. Ça semble évident, mais jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Un vide juridique dans la législation permettait jusqu'à présent aux membres de la communauté sikh de porter une dague cérémoniale pour des motifs religieux. L'interdiction intervient alors qu'un élève a été poignardé il y a 2 semaines au lycée de Glenwood, dans le nord-ouest de Sydney. L'annonce a été faite par la ministre de l'Éducation de cet État, Sarah Mitchell.
This isn't in line with community expectations, so we will be working to make that legislative change. But in the interim, I've also asked the department to send advice out to our schools today, updating our policy to say that knives for religious purposes will be banned in government schools.
Cherche maître nageur désespérément. C'est la situation dans laquelle se trouvent actuellement des centaines de piscines à travers le pays qui ont le plus grand mal à recruter des professeurs de natation certifiés, mais aussi des maîtres nageurs sauveteurs. Le président de la Royal Life Saving Australia, Justin Scar, appelle les personnes au chômage à envisager un changement de carrière et à pourquoi pas devenir maître nageur. La communauté française d'Australie, de Fidji et de Papouasie-Nouvelle-Guinée va être appelée aux urnes d'ici quelques jours dans le cadre des élections consulaires. Pour voter, il faut être majeur et inscrit sur les registres du consulat de France. Le vote en lui-même commence le 21 mai sur Internet. Vous pourrez vous exprimer de cette manière jusqu'au 26. Et puis, le 30 mai, ce sera le jour officiel de l'élection, celui où pour voter, il faudra se déplacer physiquement pour mettre un bulletin dans l'urne. Alors, ces élections, elles permettent donc d'élire des conseillers consulaires. Ils sont les représentants pour une durée de 6 ans de la communauté française en Australie, mais donc aussi à Fidji et en Papouasie. Et ils servent également de relais à cette communauté auprès des autorités officielles, le consulat notamment, l'ambassade, mais aussi la députée de la circonscription. En revanche, comme leur nom l'indique, ils ne sont que des conseillers et n'ont donc pas de pouvoir décisionnaire. Ils ne disposent pas non plus d'un budget, contrairement par exemple au conseil municipal d'une commune. Pour ce qui est des candidats, chez nous, 5 listes ont été déposées. Ensemble citoyen et solidaire, qui est soutenu par Europe Écologie Les Verts, Indépendance, expérience et proximité, dont la tête de liste est encartée chez les Républicains. La liste Solidarité en Australie, c'est la liste soutenue par le parti présidentiel En Marche. La liste Ensemble maintenant est-elle proche du Modem, parti centriste allié en France à En Marche? Et enfin, la liste Alliance solidaire des Français de l'étranger, une association dont la présidente, la sénatrice Evelyne Renaud-Garabédian, est-elle aussi rattachée en France au groupe Les Républicains? Et puis pour finir, on jette comme d'habitude un œil à la météo de ce mardi en Australie. Perth est sous la pluie, mais la température reste agréable à 24 degrés. 19 à Adélaïde où le temps est couvert aujourd'hui. Idem à Melbourne où il fait 18 degrés. 20 degrés à Sydney en revanche où il y a du soleil. 23 degrés à Brisbane. 28 degrés à Cairns et jusqu'à 32 degrés aujourd'hui à Darwin.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.